à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clément Salazar, Juliette Gadeau, réalisée par Lionel Quentin ce matin, et à la technique, Clément Daté. Et comme chaque vendredi, place à notre table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semon. On va parler cette semaine aujourd'hui des États-Unis. Cette semaine se tenait le troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et visiblement, il a très clairement tourné à l'avantage de la candidate démocrate, très sur la défensive, bottant en tout, cherchant à éviter les sujets délicats, laissant planer le doute concernant la reconnaissance de sa défaite éventuelle, dans le cas en tout cas d'une victoire de sa concurrente, l'interrompant sans cesse à grands coups de wrong, wrong, sans autre forme d'argumentaire, allant même jusqu'à lâcher, hein. Quelle mauvaise femme, aussi déplacée qu'outrancier. Or, justement, c'est peut-être dans ce registre que Trump a perdu tout espoir de l'emporter. L'affaire de la vidéo révélée récemment dans laquelle on l'entendait tenir des propos dégradants à l'encontre des femmes, les accusations d'agression sexuelle et plus généralement son attitude sexiste, autant d'éléments qui semblent avoir constitué un tournant dans une campagne dans laquelle il s'était pourtant montré jusqu'ici tellement résistant. Et si finalement le candidat républicain perdait à cause de son sexisme et de sa misogynie? Et si finalement, contre toute attente, cette élection se jouait sur la question du genre? Donald Trump serait-il mis KO? Sera-t-il mis KO dans 3 semaines maintenant? Et cet homme qui avait déjoué tous les pronostics en sortant vainqueur des primaires s'inclinera-t-il sur son comportement vis-à-vis des femmes? Trump, Clinton, la question du genre sera-t-elle finalement la clé de l'élection? C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Pour l'aborder, Hélène Canquin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, une spécialiste des mouvements féministes aux États-Unis. À vos côtés, Nicole Bacharan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, historienne et politologue, également, bien sûr, spécialiste des États-Unis. Avant de nous retrouver autour de cette question, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des Prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Méditerranée.
C'était calme, on a eu quelques frayeurs, certaines personnes ont sauté à l'eau un peu par panique ou par désespoir. On a pu réagir vite, on a été soutenu par l'ONG Proactiva Open Arms qui est équipée de 2 semi-rigides avec des sauveteurs nageurs, donc ils sont très très réactifs et très utiles pour nous. Donc ça nous a bien aidé.
Qui a vu le bateau en fait? On était appuyé, serré comme le vêtement. Tu as vu le vêtement quand on le met dans l'armoire? On le entage, voilà. C'est comme ça on était. On a déplacé même les animaux. On est devenu des vêtements.
Voilà, Antoine Laurent, pilote d'un des canots de sauvetage venu secourir en pleine nuit 722 personnes entassées sur une petite embarcation. On entendait également Shérif Saïd, un Djiboutien d'une 20aine d'années, l'une de ces personnes justement qui s'était lancée comme souvent sur une embarcation sous-dimensionnée. Bonjour Juliette Garbrandt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes journaliste à RFI. Vous avez passé plusieurs jours à bord de l'Aquarius, qui est un navire de l'ONG SOS Méditerranée. C'est une association qui vise à prêter assistance à toutes les personnes en détresse dans cette mer Méditerranée. Vous avez vécu le quotidien de ces équipes, mais aussi évidemment celui des migrants récupérés en pleine mer. Un sauvetage comme celui-ci, c'est une opération difficile, laborieuse. Il a fallu pas moins de 7 heures pour ramener tout le monde à bord de l'Aquarius. C'était d'ailleurs sa plus grosse opération depuis le lancement de ce programme en février dernier. Pourquoi c'est si long de faire monter tout le monde à bord?
Ah ben parce qu'il n'y a que 2 canots de sauvetage. Enfin là, comme le dit Antoine Laurent dans le son qu'on vient d'entendre, une autre ONG a prêté main forte avec 2 autres canots. Mais sur chaque canot, il tient une dizaine de personnes. Donc voilà, il faut faire des allers-retours. Et puis les premières personnes à être transférées sur le canot de sauvetage, il a fallu 1h30. Parce que on arrive, donc il faisait nuit encore, on arrive avec les canots et les équipes de sauvetage distribuent les gilets de sauvetage. C'est-à-dire que normalement, il faut que tout le monde soit équipé avant de pouvoir bouger, quoi.
Alors jusqu'ici, le navire a sauvé près de 4000 personnes. Peut-être un autre chiffre pour donner un peu une idée du phénomène. En ce moment, depuis janvier 2016, il y a plus de 130 000 personnes qui ont atteint l'Italie et au moins 3000 ont péri lors de la traversée. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsque ces personnes arrivent à bord? Qui s'occupe d'elles et quel type d'aide on leur propose? D'abord, on leur donne un kit de première nécessité. Il y a quoi dedans ?
Oui, alors il y a sur ces navires, il y a toujours deux équipes. Il y a une équipe de sauvetage, enfin sur les gros navires, une équipe de sauvetage, une équipe de soins, de santé. Là, en l'occurrence, SOS Méditerranée, c'est l'équipe des sauveteurs, travaille avec Médecins Sans Frontières. Donc il y a une équipe de MSF à bord avec une clinique. Il y a eu deux naissances, par exemple, sur ce bateau depuis février. Donc, quand les gens montent à bord, on leur donne, oui, un sac de première nécessité, une couverture, une serviette, de l'eau, des biscuits énergétiques pour tenir jusqu'au lendemain matin, moment où on va pouvoir distribuer un premier repas, un petit déjeuner. Toute cette logistique-là, c'est Médecins Sans Frontières.
C'est des moyens matériels et humains qui sont colossaux, en réalité, pour s'occuper comme ça de 700 personnes. Comment est-ce que c'est financé ?
Alors, d'abord, normalement, c'est pas 700 personnes. C'était très exceptionnel et ce bateau qui fait 77 mètres, l'Aquarius, il est fait pour accueillir 400 à 500 personnes maximum. Mais bon, nécessité fait loi. 11 000 euros par jour sont nécessaires pour l'Aquarius, selon SOS Méditerranée. C'est financé principalement par des dons. Alors, il y a MSF, bien sûr. MSF, c'est MSF a des moyens. SOS Méditerranée fait beaucoup de campagnes de financement, beaucoup de dons de particuliers et d'entreprises ou de d'institutions. Mais c'est
il y a aussi des subventions publiques. Donc, c'est beaucoup de dons, mais aussi quelques subventions publiques.
Peu.
La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est celle de justement ce personnel encadrant. Il y a évidemment tous les migrants et on en évoquera un certain nombre, mais il y a aussi tout le personnel encadrant. Ils ont parfois des parcours, des motivations qui sont étonnantes. C'est le cas par exemple d'Edouard, qui est un bourguignon qui a été marinisé, dit-il. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est arrivé là ?
Edouard, oui. Edouard, c'est quelqu'un qui a... J'ai oublié son âge précis, pardon, mais une trentaine d'années, et qui vivait donc en Bourgogne. Il a été ouvrier, travailleur social, et puis un jour, tout s'est mis à aller de travers, sur le plan personnel et professionnel. Il a décidé de refaire sa vie, et comme sa famille avait un logement en Bretagne, il est parti en Bretagne, et là, il a décidé de devenir pêcheur. Et donc, il s'est formé rapidement, et il est monté sur un coquillier, un bateau qui ramassait des je ne sais plus quel type de coquillage au large des côtes bretonnes. Il s'est formé à ça à la dure. C'était vraiment quelque chose, il leur raconte, quelque chose de très éprouvant quand on n'a pas l'habitude. Comme ça, il dit, le premier jour, j'ai eu l'impression que j'arriverais jamais, mes bras allaient tomber du corps. Bon, et finalement, il a réussi, il a continué. Et ensuite, il m'a expliqué que le déclenchement de sa motivation pour venir pour monter à bord, ça avait été les attentats.
Les attentats de Paris.
Et il s'est dit à ce moment-là, moi je veux pas, je veux être du côté de ceux qui vont ouvrir les bras. Dans la foulée des réactions, de certaines réactions qui ont fait un amalgame à ce moment-là entre migrants, terroristes, etc. Il s'est dit, ah non, moi je veux pas de ça, je veux pas être de ce côté-là, il faut faire quelque chose. Et on sera jugé, il l'explique, il dit, on sera jugé dans 40 ans pour le camp qu'on a choisi, pour ce qu'on a fait ou pas dans cette grande... crise, entre guillemets, de migration.
Il y a un autre personnage qu'on rencontre dans votre reportage, c'est Asma Mulette, qui est l'une des médiatrices culturelles de MSF. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? Quel est son rôle ?
Asma Mulette, c'est la femme qu'on entend dans le son que vous avez diffusé au mégaphone. Donc, concrètement, très concrètement, quand il y a un sauvetage, elle monte à bord du premier canot, elle part avec son mégaphone, elle parle arabe, anglais, français, Asma, et bon, espagnol, mais enfin, et au mégaphone, elle donne les premières instructions, elle rassure les migrants sur les bateaux. Elle établit le premier contact qui est très important parce que souvent les canots, enfin les migrants ne savent pas qu'on vient à leur secours et parfois ils font même demi-tour, ils ont peur d'être arrêtés et d'être ramenés en Libye. Ce qui se passe quand par exemple ils sont interceptés par les gardes-côtes libyens. Donc voilà, Asma fait ça. Ensuite,
ou accessoirement ils sont mis en prison pour un temps indéfini.
Oui, ils sont en prison. Oui, ça c'est toute une autre question. MSF travaille sur ce sujet d'ailleurs. Donc Asma Mulette fait ça et ensuite à bord elle fait partie des médiatrices. Les médiateurs de Médecins Sans Frontières, hein, c'est l'équipe de Médecins Sans Frontières, ils ont un médiateur aussi érythréen qui n'était pas là ce jour-là malheureusement, mais c'est comme ça, établissent le contact, recueillent les témoignages et font la médiation, c'est-à-dire on leur explique ce qui va se passer, pourquoi ils sont là, où est-ce qu'ils vont, ce qui va leur arriver en Italie.
Et ce qu'elle vous dit notamment, c'est qu'il y a une prise en charge peut-être spécifique pour les femmes et pour la question des violences sexuelles. Ce qu'elle vous dit, c'est que la majorité des femmes à qui Asma, en tout cas, a parlé, ont été précisément victimes de violences pendant le voyage. D'ailleurs, certaines, vous dit-elle, se font injecter des contraceptifs qui les protègent pendant plusieurs mois. Il y a une prise en charge charge spécifique pour ces femmes, justement, sur cette question des violences sexuelles?
Une prise en charge spécifique, oui,
Il y a par exemple une médiatrice nigériane, je crois.
Alors, sur l'Aquarius, quand j'y étais, donc MSF avait recruté une médiatrice nigériane pour essayer de faire parler, enfin, d'établir un contact avec les femmes nigérianes, puisque l'ONG avait constaté que c'était très difficile pour elles de libérer leur parole. De façon générale, cette question des violences sexuelles, elle est taboue. Les Érythréennes, par exemple, sont très 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 chrétiennes et la plupart, si vous leur posez des questions, se sentent extrêmement horrifiées qu'on puisse leur demander, par exemple, si elles sont enceintes, ce que fait la sage-femme, ce que fait le médecin quand elle est dans les consultations. Oui, ces violences sont récurrentes. Oui, moi j'ai recueilli donc le Asma m'a raconté des témoignages et j'ai recueilli le témoignage d'une femme, d'une jeune Érythréenne qui m'a raconté avoir été violée et qui voulait absolument témoigner pour prévenir les autres femmes, pour dire ne partez pas, ne faites pas ça. Et en effet, elles savent. Alors elle spécifiquement ne le savait pas, mais la plupart le savent et en effet se font faire des injections de contraceptifs.
Ces sauveteurs, ils savent bien qu'après la traversée, les choses ne vont pas être aussi simples qu'on pourrait l'espérer pour ces migrants. En Europe, le climat, bien sûr, est pas aussi accueillant qu'on pourrait l'espérer. Comment est-ce qu'ils vivent justement le fait d'à un moment les aider, les sauver et puis ensuite d'avoir à les abandonner à leur propre sort?
C'est variable selon les personnes. Certains m'ont dit, moi je fais ce que je peux à mon niveau, j'ai une marge de manœuvre ici sur un bateau parce que c'est un peu mon univers. Hein, c'est des gens qui soit viennent du sauvetage, qui sont déjà sauveteurs, maîtres nageurs sauveteurs, ou des gens qui viennent souvent de la marine marchande. Par contre, ce qui se passe à terre, c'est plus trop mon rayon. Mais dans l'ensemble, une des missions de SOS Méditerranée, c'est aussi de témoigner. Et donc tous ont ça à cœur. Et certains ont aussi des projets à terre. C'est une préoccupation pour la plupart quand même. Édouard, dont vous parliez, avait un projet comme ça d'organiser quelque chose, des échanges entre le bateau
et une école,
un collège. J'ai rencontré aussi une chercheuse allemande au profil très atypique, qui elle est chercheuse pour une fondation du gouvernement allemand qui travaille sur les migrations. Elle a rencontré l'Aquarius à Lampedusa au moment où l'opération a été lancée et elle a voulu monter à bord. Et elle, clairement, elle est ni sauveteuse ni de la marine, elle est clairement là parce que justement elle fait un travail de recherche qu'elle continue à terre et un travail aussi d'assistance. Elle est engagée dans cette question.
Dans le cas de ce sauvetage, la plupart des personnes étaient érythréennes. C'est le cas par exemple d'Osham Mahmoud que vous avez rencontré. Vous nous racontez un peu son histoire, son parcours en quelques temps, instants.
Oui, Osham, il est parti pour fuir la dictature érythréenne. Il avait ses parents, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, et ses parents étaient encore... ces gens fuient la dictature, Osham, il est assez emblématique pour ça. Il fuit aussi quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, c'est le service militaire, la conscription érythréenne. Les Érythréens sont réquisitionnés par l'armée pour une durée indéterminée. Certains y passent leur vie pour des indemnisations de misère. Donc lui avait encore ses parents, anciens combattants pour l'indépendance, toujours enrôlés dans l'armée. Et lui-même avait été, après ses études, réquisitionné pour être enseignant et payé $3 par jour. Et il en a eu marre. Il est parti.
Beaucoup de migrants vous ont bien sûr expliqué comment, dans quelles conditions ils étaient arrivés jusqu'ici. Et ce qui frappe beaucoup, c'est le côté extrêmement organisé. On en a déjà parlé plusieurs fois ici à ce micro, mais on se revend les groupes de migrants entre passeurs, on les exploite, on les rackette. C'est devenu quasiment un secteur industriel, en réalité.
Je crois que c'est ce qui m'a frappé le plus pendant ce reportage, où j'étais partie pour voir comment se passent ces opérations et aussi pour recueillir ces témoignages qui, pour RFI, sont évidemment très importants puisque beaucoup de nos auditeurs sont en Afrique et faire parler ces gens. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est en effet que ce qui se dessine à travers tous ces témoignages, que ce soit ceux des humanitaires de MSF, que ce soit ceux des sauveteurs et ensuite ceux des migrants qui se suivent, se recoupent et se ressemblent, c'est le côté industriel de cette affaire. Et vous avez dit, il y a eu plus de 3000 morts en Méditerranée. Combien il y en a qui meurent en route? Les gens sont en effet rackettés, enfermés dans des hangars, affamés, mais volontairement battus, parfois torturés, pour que les passeurs puissent leur extorquer de l'argent. Et c'est devenu une véritable industrie, c'est très très bien organisé, d'un bout à l'autre de la chaîne.
Alors sur le débarquement maintenant, les personnes sont débarquées dans un port. En l'occurrence, lors de ce sauvetage, c'est 722 personnes ont été débarquées dans un petit port de Vibo Valentia, un petit port de Calabre au sud de l'Italie. Qui décide de l'endroit où on va débarquer ces personnes ?
C'est le
Comment ça s'organise ?
Oui, alors ça c'est le MRCC, c'est le centre de coordination des sauvetages du secours en mer qui est à Rome. Ce centre de coordination s'occupe de plusieurs choses. C'est lui qui donne le feu vert à tous les navires qui sont sur la zone pour intervenir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un sauvetage sans les avoir prévenus. Ça, c'est la première chose. Il y a évidemment la question zoo-territoriale qui est bon, aussi importante. On n'y entre pas, mais quand même, parfois, s'il le faut, on le fait pour un sauvetage. Et c'est le MRCC qui, ensuite, va dire à quel endroit il faut que les navires reviennent en Italie. Puisque, par exemple, le 3 octobre...
Il y a une douzaine de bateaux dans ce genre-là, de bateaux d'associations qui naviguent dans ces eaux.
Aujourd'hui, il y a une douzaine de navires ou bateaux qui patrouillent alors à tour de rôle ou parfois ensemble. Le 3 octobre, quand il a fallu ramener 6000 personnes en une fois, alors il faut 36 heures à peu près pour revenir aux côtes italiennes ou siciliennes, mais quand vous ramenez 6000 personnes à la fois en Italie, il faut bien que les Italiens s'organisent. Donc c'est ce centre qui dit à tel bateau, vous allez dans tel port, tel autre bateau, vous allez
dans tel port, etc. Et sur quels critères ? Critères purement géographiques ?
Non, sur des critères de place. Mmh. De logistique, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a de la place pour accueillir 400 personnes, 700 personnes. Il y a des hotspots, les fameux hotspots. À Vibo Valentia, il n'y en a pas, mais il n'empêche qu'il y a un centre d'accueil de première urgence, on va dire, où les migrants restent 24 heures avant d'être envoyés ensuite dans les centres d'accueil de l'Italie à travers tout le pays et selon une répartition décidée par le gouvernement.
Juliette Garbrandt, et ce sera ma dernière question, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que la présence justement de ces bateaux dédiés au sauvetage encourage les départs. Quel regard vous portez sur cette hypothèse et est-ce qu'elle vous semble résister à la réalité ?
Non, mais c'est mon opinion, mais aussi celle de la plupart des gens
qui travaillent. Votre opinion et votre expérience aussi.
Oui. Non, enfin, on le voit à l'aune de plusieurs années, enfin, si on regarde un peu en arrière. On a dit la même chose avec Mare Nostrum. On a dit la même chose à chaque fois qu'on met... Alors, bien sûr, il y a quand une route s'ouvre, les gens y vont. Ou quand ils savent qu'après, elle se ferme, il y a qu'à voir ce qui se passe en Grèce. Certes, il y a presque plus de passages en Grèce, mais il y en a encore. Et les gens vont faire autrement. Ils reprennent les routes terrestres, ils vont faire autrement. Il n'y a pas de... Et en attendant, c'est vrai qu'il faut les sauver. Sur la mortalité, oui, il y a une augmentation de la mortalité. Il y a aussi un débat là-dessus. Mais l'augmentation de la mortalité ne tient pas au fait qu'on va sauver les gens. Il tient au fait que les embarcations sont de plus en plus précaires, que les passeurs prennent de plus en plus de risques, etc. C'est une question compliquée, mais...
Réaction avec nos invités ici en plateau, Hélène Canquin, Nicole Bacharan, Marc Semo. Qu'est-ce qu'il veut éventuellement dire un mot avant qu'on ouvre notre table ronde consacrée aux États-Unis, Hélène Canquin ?
Je trouve, je pense que comme beaucoup de gens qui écoutent ces reportages ou ces histoires, c'est plutôt l'émotion, mais aussi l'incompréhension face aux politiques des gouvernements. Je pense qu'il y a les vies personnelles qu'on oublie souvent quand on parle de ces sujets, et je trouve que c'est important de donner la parole aussi à ces personnes dont on parle beaucoup, mais qu'on écoute assez peu, au final.
Nicole Bacharan.
Oui, c'est vrai que c'est absolument déchirant. C'est toutes ces tragédies en grand nombre et le fond de la Méditerranée qui devient un cimetière et l'impuissance générale. Alors c'est vrai que j'admire ces gens qui s'y collent, si j'ose dire, et qui vont directement tenter d'agir pour sauver les personnes une par une par une. Mais quand on voit les situations que tous ces malheureux fuient, que ce soit la misère, que ce soit ces conscriptions obligatoires et qui n'en finissent pas, que ce soit la guerre, et qu'on nous explique en Europe qu'il faut faire le tri entre les migrants qui fuient la guerre, qui ont droit à l'asile politique, ceux qui fuient la misère et qui n'ont pas droit. C'est vrai en tant que simple civil, on se sent totalement dépassé et qu'on a l'impression que ce sont des critères qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et que quand on voit ce qui se passe en Syrie, par exemple, on voit bien que les pays occidentaux ne savent absolument pas quoi faire. C'est ce sentiment d'impuissance générale, je crois, qui est extrêmement pénible. Alors pour nous, c'est pénible, mais au fond, ça nous fait un petit peu mal au cœur. Mais pour les gens qui sont pris dans la tourmente de ça, c'est leur vie entière qui se joue.
Merci beaucoup, en tout cas, Juliette Gerbrand, d'être passée dans le studio.
Merci à vous.
Je rappelle, journaliste pour RFI, l'excellente RFI. Merci beaucoup, Juliette Gerbrand.
Merci.
On va doucement quitter avec cette très belle voix érythréenne la Méditerranée pour se tourner du côté des États-Unis au lendemain du troisième et dernier débat télévisé. Trump-Clinton, la question du genre sera-t-elle finalement la clé de l'élection ?
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Après la vidéo remontant à 2005 montrant le candidat républicain tenir des propos abjects à l'égard des femmes, après les accusations d'agression sexuelle, Donald Trump semble plus que jamais en difficulté dans les sondages. Alors que le scrutin s'approche, c'est dans moins de 3 semaines maintenant, il faut dire qu'il est parvenu à choquer jusque dans son propre camp. Même son colistier Mike Pence s'est désolidarisé. Je ne cautionne pas ses déclarations et je ne peux pas les défendre. Il n'est pas le seul d'ailleurs à les avoir critiquées. Une autre voix s'est fait entendre, venue de la Maison Blanche cette fois.
This is not something that we can ignore.
Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer, car ce n'était pas simplement une conversation obscène. Ce n'était pas juste des discussions de vestiaire. C'est un homme puissant qui s'exprime librement et ouvertement sur un comportement de prédateur sexuel et qui se vante d'embrasser et de peloter des femmes. Les commentaires honteux sur nos corps. Le manque de respect de nos ambitions et de notre intelligence. La certitude que l'on peut faire tout ce que l'on veut à une femme. C'est cruel. C'est effrayant. Et ça fait mal.
Une Michelle Obama, on l'entend, extrêmement émue, extrêmement troublée, révoltée par les propos du candidat républicain, comme une grande partie de la société américaine, répondant ici peut-être à la place de la candidate démocrate qui pouvait difficilement prendre la charge compte tenu des errements passés de son mari en la matière. Les révélations très éclairantes sur la représentation que Donald Trump se fait des femmes ont beaucoup choqué l'opinion. Pourra-t-il rattraper ce qu'il a qualifié de propos de vestiaire? Et l'immense respect qu'il leur réserve suffira-t-il pour sauver du désastre? Dans quelle mesure le sexisme du candidat républicain pourrait-il le faire perdre? Voilà la question qu'on va se poser ce matin avec Hélène Canquin, Nicole Bacharan et Marc Semo du Monde, notre partenaire le vendredi. Marc, on est maintenant à 3 semaines du D-Day. Ça fait des mois qu'ici, à ce micro, on observe cette campagne américaine. On a été aussi étonnés finalement qu'épatés, faut le dire aussi, par ce Donald Trump qui franchissait les étapes les unes après les autres. Les autres, personne ne voyait disputer la victoire finale face à Hillary Clinton, sauf que visiblement, il semble désormais plus en capacité de l'emporter, en tout cas à en croire les sondages. Et même si ce n'est probablement pas seulement sur ce sujet que l'élection se jouera, il est absolument indéniable que cette question du sexisme dont il a fait montre Donald Trump, politiquement, il a été terriblement affaibli par cette attitude vis-à-vis des femmes. On voit, c'est un tournant.
Absolument, c'est un tournant, et c'est un tournant parce que c'est une vidéo. Parce que c'est Trump lui-même qui le dit, qui se montre tel qu'il est. Et non plus simplement des propos rapportés ou des femmes qui disent qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles, d'attouchements, etc. Et ça, c'est fondamental. Alors c'est vrai, aujourd'hui, bon, Hillary Clinton creuse davantage, du moins à en croire les sondages, et le scénario catastrophe de la première puissance du monde dirigée par un milliardaire populiste misogyne xénophobe semble écarté. Mais au-delà même de cette question du sexisme dans la campagne, je pense que cette campagne laissera profondément des traces, et des traces très profondes aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, hein, par sa vulgarité, par la démagogie montrée Donald Trump, qui d'ailleurs dénonce d'avance la fraude, et là aussi c'est dévastateur, parce que bon, voilà, les États-Unis ont un leadership économique, militaire, mais aussi moral. Et donc le fait qu'un des deux candidats, aux yeux du monde, parle comme un opposant d'une démocrature de l'Europe orientale ou d'une république bananière, ça laissera des traces. Et d'une certaine façon, ça interpelle aussi, alors on en parlera peut-être pendant le débat, sur la question des primaires. C'est-à-dire comment cet homme a pu arriver, tel qu'il est, jusqu'au niveau où il en est arrivé, pour incarner le parti républicain. Alors, pour revenir à la question strictement du sexisme. Si on regarde les chiffres, Trump est le symptôme de quelque chose, d'une Amérique qui va mal, d'une Amérique blanche, larguée, hein, c'est un peu la même chose qu'on a vu, qu'on voit en France ou en Europe avec les populismes, etc. Mais si on regarde les statistiques, apparemment, 52% des hommes américains votent Trump, 60% des femmes votent Clinton. Et on voit là, dans cette espèce de coupure, que cette question du genre, qu'on avait voulu évacuer, en réalité, est réellement bien présente, plus qu'on ne l'imaginait même dans la campagne américaine.
On va y revenir à ce qu'on appelle aux États-Unis le gap gender, qui en réalité, alors moi d'après les chiffres que j'ai pu observer sur un certain nombre de sites, sont bien supérieurs à ce que vous dites, mais on va y revenir. Sur les intentions de vote, Nicole Bacharan, c'est vrai que là, en gros, on mesure Trump régulièrement à moins de 40%, il a perdu.
Aujourd'hui, il a perdu. Bon, voilà, il faudrait un événement considérable que, honnêtement, je ne peux même pas imaginer pour que la tendance s'inverse. Il faut savoir que les électeurs américains votent déjà depuis plusieurs semaines, que le 8 novembre, date de l'élection, c'est en fait le dernier jour pour voter, et que la tendance, les tendances, quelles qu'elles soient, hein, d'une élection à l'autre, sont très difficiles à retourner quand on est au mois d'octobre. Et c'est vrai que cet enregistrement dont Marc Semeau parlait à l'instant, semble lui avoir été fatal. De plusieurs manières. D'abord parce que non seulement c'est extrêmement vulgaire, c'est extrêmement sexiste, mais il prône des actes qui sont condamnables devant la justice. Ça va quand même très 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 loin. Et il n'y a pas que les femmes qui ont été choquées. Beaucoup d'hommes ont été choqués. Alors ce qu'ils disent dans les vestiaires, moi je n'y suis pas, je ne peux pas le dire, mais que le potentiellement le président des États-Unis se montre sous ce jour-là, ça me semble assez fatal. Par contre, dans son propre parti, dans le parti républicain, honnêtement, à part la preuve, comme le disait Marc à l'instant, qu'est-ce qu'ils ont appris qu'ils ne savaient déjà ? Je veux dire la misogynie, la vulgarité, cette obsession pour les concours de beauté, cette manie de donner des femmes des notes sur leur physique, entre 0 pour les plus laides et 10 pour les plus belles, de les disqualifier parce que trop laides, parce que les seins trop plats, parce que trop vieilles, parce que trop grosses, mangeant trop, etc. C'est totalement cohérent. Donc ce qui est choquant, c'est qu'une partie, seulement une partie d'ailleurs, du leadership républicain ait voulu absolument fermer les yeux là-dessus, en pensant que électoralement c'était un meilleur calcul.
Hélène Canquin, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé dans cette élection la place de la question du genre ? Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ce que peut représenter aujourd'hui encore dans les États-Unis de 2016 le fait qu'une femme se présente à l'élection suprême, à la fois pour le combat féministe, mais aussi pour les hommes de pouvoir rester assez largement sexistes et misogynes? Le fait que ce scrutin précisément se joue sur la question du sexisme n'est-il pas le révélateur d'inégalités entre les hommes et les femmes plus graves encore que ce qu'on avait pu imaginer?
Ça dépend qui est on. Je crois pas que tout le monde ait sous-estimé cet enjeu. Je pense que il y a différentes questions à mon sens. Moi je préfère voir les choses un peu plus positivement. Je pense que si le sexisme fera probablement perdre l'élection à Trump, je pense que ce sont aussi des femmes qui se mobilisent. Une certaine conscience féministe et chez les hommes et chez les femmes qui vont le faire perdre également. Et je pense qu'effectivement, tout comme le racisme d'ailleurs, puisque Trump est aussi assez connu pour ses remarques assez effroyables sur les Noirs, sur les Mexicains, etc. Tout comme le racisme, effectivement, Trump est effectivement peut-être un révélateur comme dit sa femme qu'il a défendue lundi dans les entretiens, peut-être qu'il dit les choses comme elles le sont exactement. Ça nous rappelle certaines choses en France, j'imagine, mais je pense qu'il est, révélateur d'un certain comportement, mais je pense qu'il est aussi, il s'est attaqué à peut-être ce que lui sous-estimait.
Nicole Bacharan, et ensuite je vous donne la parole Marc Semeau, mais comme je sais que vous allez parler du gap gender, je veux avant glisser une question. Nicole Bacharan, vous avez écrit un livre au début de l'année, Du sexe en Amérique, et vous dites que ça fait en gros 25 ans que les questions sexuelles, qu'on a rebaptisées valeurs morales, la question de l'avortement, la contraception, l'homosexualité, tout cela sont devenus des armes politiques centrales, des enjeux politiques centraux dans les États-Unis d'aujourd'hui.
Oui.
Il y a une forme de retour de la question du sexe.
Absolument. Et tout ça nous ramène à l'évolution du Parti républicain, qui était un parti à l'origine, celui d'Abraham Lincoln, qui a libéré les esclaves, et qui était un parti qui représentait plutôt les intérêts des milieux d'affaires, qui défendait une économie libérale, qui était plutôt internationaliste, ouvert vers l'extérieur, et qui petit à petit a glissé pour des raisons historiques et sociale assez complexe, mais qui a récupéré un électorat blanc, dans le Sud en particulier, héritier des ségrégationnistes, donc avec un fond de racisme assez fort, et puis la classe ouvrière blanche, et qui avait des difficultés, qui était en révolte un peu contre l'establishment, et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et cet électorat-là est un électorat populaire qui a plutôt la vie difficile et qui au fond avait peu en commun avec un leadership proche des milieux d'affaires. Et pour le fidéliser, pour le capter, une partie des républicains ont mis en avant ce qu'ils ont appelé les valeurs morales, les valeurs religieuses, mais avec une conception assez restreinte, c'est-à-dire en gros la répression sexuelle, le contrôle de la sexualité imposé par la loi, au fond ce que les prêtres et les pasteurs n'arrivaient plus à imposer dans les paroisses. Alors qu'il y a des gens, ils s'expriment d'ailleurs aujourd'hui, des gens très croyants qui pensent que la religion c'est aussi la solidarité, la charité, le soin des plus pauvres, l'éducation, non, c'est pas ça qui a été mis en avant. Et c'est vrai que aujourd'hui, cet électorat en colère qui fait le noyau de Donald Trump, il lie à la fois une colère sociale contre la pauvreté, une colère profondément au fond raciste, qui est c'était mieux avant. Et avant, c'était quand les hommes blancs avaient l'autorité, n'étaient pas contestés par les minorités, notamment un président noir à la Maison Blanche, et où les femmes filaient doux, tout cela sous l'autorité adjacente, si j'ose dire, des églises et des religieux.
Et vous pensez que cet électorat chrétien, il va quitter finalement Donald Trump ?
Et cet électorat chrétien aussi ne quitte pas Donald Trump. Ouais. Alors il se peut qu'il ne vote pas beaucoup. Là est toute la question. Mais beaucoup d'entre eux, on le voit, c'est extrêmement intéressant dans l'Utah, qui est un État avec une majorité mormone, donc très conservatrice sur le plan moral et religieux, qui vote toujours républicain depuis au moins 25 ans. On ne sait pas si cet État-là va donner une majorité à Donald Trump, tellement ils sont écœurés par cette vulgarité. Mais par contre, les gens très religieux pour qui la question de l'avortement est centrale vont souvent voter Trump parce qu'il leur promet un juge à la Cour suprême, ou deux ou trois, selon le vieillissement de ces messieurs et dames, qui irait dans la direction d'une interdiction de l'avortement aux États-Unis. Donc ils risquent de voter Trump à cause de l'avortement.
Oui, même si il risque aussi de ne pas voter, parce que le courant pro-life qui était jusqu'ici très favorable à Trump lui retire progressivement son soutien. Regardez l'organisation militante Catholic Vote
un électorat très tangent au Parti républicain. Mais les évangéliques, pour l'instant, votent encore Trump s'ils votent.
Mais Trump est lui-même ambigu d'ailleurs sur l'avortement.
Il a toujours été pro-avortement.
Il
n'a pas été très ambigu dans le dernier.
Le dernier débat, quand il parle d'avortement au dernier jour de la grossesse, d'après moi, ça s'appelle un accouchement, ça s'appelle pas un avortement. Donc on est dans un pur délire.
Mais il y a eu des mots très durs sur l'avortement. Enfin, il l'a décrit dans des termes effectivement très, très graphiques, on va dire. Et là, il a marqué son opposition au total. D'ailleurs, donnant l'avantage, je pense, à Hillary Clinton, qui a pu développer sa position sur l'avortement.
Marc Zemmour.
Mais au-delà même de la beaufrie de Trump, sur un propos du sexisme, incontestable, il y a quand même un sexisme beaucoup plus diffus. Nombre de commentateurs aux États-Unis ont noté que la dureté vis-à-vis d'Hillary Clinton, les exigences qu'on avait vis-à-vis d'elle sur ses compétences, ou même sur sa santé, la manière dont on l'a cuisinée, dont on l'a mise sous pression sur un certain nombre de choses, donc au-delà du fait qu'on lui reproche d'être de l'establishment, de ne pas être sincère, etc., il y a une espèce, disons, de pression sur Hillary Clinton, qui s'explique aussi, selon beaucoup d'observateurs, par le fait que c'est une femme, et que ça serait d'ailleurs la première femme présidente des États-Unis. Donc est-ce que finalement, cette question n'est pas beaucoup plus vaste que ce que représente Trump.
Et d'ailleurs, sur le débat, on a noté cette capacité de Trump à sans cesse interrompre Hillary Clinton. On dit que c'est une chose qui est très classique aux États-Unis. Il y a même un terme, je l'ai appris, que je connaissais pas. On parle de, absolument, même en France, vous avez raison. D'interrompre les femmes pour ne pas les laisser s'exprimer. C'est effectivement quelque chose qui se voit bien au-delà des États-Unis, je vous l'accorde. Mais aux États-Unis, il y a un terme pour ça. On appelle ça manterruption.
Oui.
Nicole Bacharan. Non, mais c'est dire si c'est
interruption par un homme.
Exactement.
Oui, les femmes ont naturellement une voix qui porte moins que celle d'un homme, et l'argument simple qui est de couvrir la voix d'une femme revient sans arrêt. Mais je pense que Marc met le doigt sur quelque chose de très sensible et à la fois impossible à réellement définir, c'est-à-dire dans l'opposition à Hillary Clinton, dans la détestation extrêmement forte et répandue qu'elle suscite, quelle est la part de sexisme ? C'est vrai qu'elle manque de charisme, c'est vrai qu'elle représente l'establishment, c'est vrai qu'elle a des liens avec le
Wall
Street qui... Pardon ?
Vous trouvez qu'elle manque de charisme ?
Oui, elle manque de charisme devant un micro, certainement. En privé, pas du tout. C'est une femme plutôt expansive et plutôt drôle et chaleureuse, mais elle est quand même assez figée dès qu'on la met derrière un micro. C'est vrai qu'elle est là depuis très longtemps et qu'il y a eu une usure. Mais d'abord, je trouve qu'il y a un paradoxe absolument incroyable à ce que cette femme, première candidate vraiment plausible à la présidence féministe depuis sa prime jeunesse, se retrouve face à le candidat archi-machiste. Elle aurait pu être face à Mitt Romney, par exemple. On aurait eu quelque chose de plus classique.
L'histoire réserve quelques surprises.
Voilà. Mais en plus, c'est vrai que ce qu'on lui reproche, malhonnête, pas sincère, hypocrite, voulant le pouvoir à tout prix, capable de tout pour arriver à ses fins, il y a là-dedans une part de tous les reproches qu'on a fait aux femmes de pouvoir depuis l'Antiquité.
Hélène Canquin, sur ce que Marc dit, c'est que finalement, ça dépasse assez largement ce duel Clinton-Trump, en réalité.
Oui. Je voulais juste revenir. Je pense que Hillary Clinton a beaucoup de charisme. Enfin, moi, je l'ai vue en meeting en 2008 et je l'ai trouvée assez étonnante par rapport aux descriptions qu'on en faisait. Je pense qu'elle est très bonne en débat. Par rapport aux autres candidats républicains lors de la primaire qui se sont couchés devant Trump, je pense qu'elle a été, elle a montré une vraie force. Pour revenir à ce que vous dites, je pense que effectivement, il est révélateur de choses beaucoup plus profondes au sein du Parti républicain, c'est évident. Ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, c'est que les républicains qui ont lâché Trump après la publication de cet enregistrement ont tous défendu, enfin ceux qui ont lâché Trump l'ont souvent fait en écrivant qu'ils le faisaient au nom de leur femme, de leur fille, parfois de leur nièce même. Paul Ryan qui est donc le président de la Chambre des représentants républicains qui dit qu'il faut qu'on vénère, que les femmes doivent être vénérées, protégées, qui est quand même une vision aussi qui, me semble-t-il, assez conservatrice, allons dire, ou voire sexiste, de la relation entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé que, effectivement, les personnes qui souvent, notamment les républicains, comme vous le dites, savaient de toute évidence ce qu'il en était. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait surtout les calculs. Enfin, pour revenir, vous vouliez parler, je pense, du gender gap, mais
absolument.
Ils font leurs calculs clairement. Ils savent que, par exemple, les femmes mariées normalement votent un peu plus pour les républicains. Là, ils sont en train de perdre le vote. C'est vrai que moi, j'avais des chiffres aussi un peu, qui sont vraiment dévastateurs.
Alors moi, c'est dévastateur. Je vais vous les donner parce qu'il y a un site américain qui s'appelle 538, oui, sur lequel sont rapportés les résultats de compilation de sondages nationaux. Donc on a deux hypothèses. Première hypothèse, quand on prend seulement le vote des femmes, là, 458 électeurs pour Clinton, 80 pour Trump. Quand on prend l'hypothèse simplement les hommes qui votent, 188 pour Clinton, 350 pour Trump. Je n'imaginais pas, quand j'ai vu ces cartes-là, je n'imaginais pas qu'aux États-Unis le vote était aussi genré.
Les cartes sont assez...
Alors là, il n'y a pas de couleur, évidemment.
Il y a des couleurs sur ces cartes.
Là, on ne voit pas les couleurs. Hein. Je vous les montre en scène. Mais quand même, on voit la nette différence.
Si les femmes ne votaient pas, tous les États seraient presque quasi tous républicains.
Quasi.
Et
Nicole Bacharan.
C'est vrai que si les femmes ne votaient pas, mais l'élection sur laquelle portent ces sondages... offre la possibilité d'élire une femme. Donc, quand s'il y a une majorité d'hommes aussi forte prête à voter Trump, ils ne sont pas tous républicains. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'hommes, un pourcentage non négligeable, qui n'arrivent pas
qui traditionnellement vote pour des démocrates.
Voilà, qui n'arrivent pas à l'idée d'être soumis, au fond, à l'autorité d'une femme. Alors évidemment, tous les gens qui, disons, potentiellement voteraient normalement plutôt démocrate, mais cette année ont énormément de mal à voter démocrate, ils vous diront tous, ah mais bien sûr que si, je suis prêt à voter pour une femme, mais pas celle-là. Non, c'est-à-dire peut-être une femme qui au fond ne voudrait pas vraiment le pouvoir, qui serait peut-être moins ambitieuse et qui donc n'existe pas. Quand on voit, et moi j'ai partagé hein, l'enthousiasme qu'a provoqué le discours de Michelle Obama, absolument enthousiasmant, dévastateur pour Trump. J'avais l'impression, comme on dit en anglais, qu'elle était en train de clouer le dernier clou sur le cercueil de sa candidature. Mais cette popularité immense qui fait rêver certains au Parti démocrate de la voir se lancer en politique, je peux vous garantir qu'elle fondrait comme neige au soleil le jour où réellement elle dirait « je veux le pouvoir ». Peut-être qu'elle l'obtiendrait. Mais cette popularité qui aujourd'hui est autour de 70% serait réduite d'au moins 40%.
Marc Semo.
Mais comment vous expliquez ça? Parce que parmi les grandes démocraties, c'est finalement, alors vous allez me dire qu'en France ça a été aussi pareil, on a pas eu de président de femme, mais il y a eu le suffrage universel, mais une premier ministre, c'est moyennement bien passé. Mais comment vous expliquez ça sur les États-Unis par rapport justement à la Grande-Bretagne, où il y a eu Thatcher ou l'Allemagne,
les pays scandinaves. Bon,
ça c'est non surprise, voilà. Mais
je parlerai pas de l'Argentine puisqu'il y a une succession.
Voilà, mais comment vous expliquez
épouse.
Ça
bon. D'abord, peut-être que les États-Unis sont simplement plus machistes à la base que les démocraties du Nord. Je pense aussi qu'il y a la question militaire. C'est vrai que les pays européens ne sont pas des grandes puissances militaires.
Sauf la France, et donc on retombe dans ce cas.
Voilà. Et la Grande-Bretagne, quand même. Mais que le fait qu'on dise sans arrêt l'homme le plus puissant du monde, même si on sait que cette puissance a des limites, si on dit alors sans arrêt, mais là c'est juste l'armée la plus puissante du monde, je pense qu'il y a de toute façon une réticence à confier les affaires de guerre à une femme. Mais ça n'est certainement pas la seule raison. Et à l'évidence, parmi, disons, un certain électorat blanc qui a toutes les raisons d'être vraiment très en colère sur le plan économique, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la vie extrêmement difficile et qui ne profitent pas du tout de la reprise, mais qui déjà ont le sentiment d'être déclassés par rapport aux minorités qui pourtant ne vont pas si bien, mais enfin, qui deviennent majoritaires. Alors après avoir laissé les clés de la Maison Blanche à un noir, si maintenant il faut les laisser à une femme, visiblement il y en a beaucoup pour qui c'est très douloureux.
Hélène Canquin, sur cette réticence dont parle Marc Semo, Nicole Bacharan évoque les questions de défense, il y en a probablement d'autres. Hélène Canquin ?
Je ne suis pas certaine qu'une femme au pouvoir signifie que la société n'est pas machiste ou n'est pas sexiste. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément cela. C'est comme si on disait que Barack Obama est président et donc la société américaine n'est pas raciste. Ça ne me semble pas tout à fait le cas. Je pense, comme vous le dites, que bien sûr, les questions militaires, ça je pense aussi que c'est important. Mais je pense aussi que les élections américaines, enfin être élu président aux États-Unis, c'est un parcours du combattant. Et peut-être de la combattante, mais c'est très long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que probablement, effectivement, une femme est déjà en position plus fragile, plus vulnérable à cause de tous les préjugés, et, bien évidemment. Et je pense qu'il faut quand même se rendre compte que Hillary Clinton, qui est donc probablement en position d'être présidente des États-Unis, elle a un parcours qui démontre une grande ténacité. Enfin, je pense qu'il faut avoir ça aussi hein, en soi. Hommes et femmes. Mais je pense que c'est important. Mais cela étant dit, je pense que pas que ça soit forcément un reflet d'une société qui soit plus ou moins, pas toujours en tous les cas,
mais
plus ou moins sexiste.
Quand même. Il y a quelques mois, Trump avait dit à propos d'Hillary Clinton qu'elle ne pouvait espérer gagner cette élection que grâce au vote des femmes, expliquant que si elle avait été un homme, elle n'aurait même pas fait 5%, c'est ce qu'il avait dit. Et le plus beau, avait-il dit, c'est que les femmes ne l'aiment pas. Et en l'occurrence, il avait raison. C'est-à-dire que les enquêtes d'opinion montraient effectivement que les femmes étaient loin de lui apporter un soutien franc et massif. Alors, qu'est-ce qui explique pourquoi cette méfiance, pourquoi cette défiance des femmes à l'égard de Hillary Clinton ?
Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense pas que forcément une femme... Il y a aussi plusieurs questions. C'est est-ce qu'on vote forcément pour une femme ou quelqu'un qui nous ressemble ? Peut-être pas forcément. De ce fait, je pense qu'il y avait une question générationnelle qui était extrêmement importante dans ces primaires. Et en l'occurrence, ce que l'on montre probablement, c'est que les femmes plus âgées soutenaient plus Hillary Clinton, mais que les femmes plus jeunes avaient en fait plutôt soutenu Bernie Sanders pour diverses raisons, parce qu'elles se sentaient moins liées justement à cette idée qu'il fallait voter pour une femme quand on était une femme ou qu'on était féministe. Elles préféraient probablement voter sur des enjeux dont elles pensaient qu'ils étaient importants pour la situation des femmes, mais qu'elles ne liaient pas forcément le vote pour une femme à l'amélioration de leurs conditions.
Oui, mais là justement, dans cette campagne, et c'est là que c'est étonnant, elle a joué, disons... je mets entre guillemets, mais cette carte femme, elle n'avait pas mis trop en 2008, justement, en avant le fait que son élection serait une première historique. Là, elle l'a fait précisément. Alors, on comprend d'autant moins pourquoi, finalement...
Femme et grand-mère.
Femme et grand-mère, absolument, absolument. Donc là, on comprend d'autant moins pourquoi cette stratégie n'a pas fonctionné, Nicolas Bacharan.
Mais apparemment, cette stratégie fonctionne. Et même si, Hélène le disait très justement tout à l'heure, il y a une question de génération. C'est vrai qu'il me semble que c'est difficile pour les jeunes femmes, et ça arrive à chaque génération, de reconnaître que tout ce débat sur le féminisme, l'égalité des salaires, etc., tout ça s'est dépassé et qu'elles ne sont pas des victimes et que le féminisme, c'est une vieille affaire. Je crois qu'il faut souvent avancer dans la vie, accumuler d'expérience pour se dire, ah, finalement, c'est peut-être pas réglé tant que ça. Et puis, Hillary Clinton, c'est l'héroïne de leur maman. Et elles n'ont pas forcément envie de voter pour l'héroïne de leur maman. C'est assez indéniable. Mais Hillary Clinton, elle a vraiment marqué des points dans ce dernier débat, qui était assez pénible à entendre, il faut quand même le reconnaître. Mais quand elle a parlé justement de l'avortement, du contrôle du corps des femmes, elle n'a pas adopté la position démocrate traditionnelle, qui a été celle par exemple défendue par Barack Obama, pas très sincèrement je dois dire, parce que on sait ce qu'il pense en réalité, mais enfin pour essayer d'être consensuel, de dire écoutez, oui, l'avortement c'est épouvantable, c'est une situation extrêmement difficile, il faut qu'il y en ait le moins possible, il faut développer l'éducation sexuelle, etc., pour que vraiment il y en ait le moins possible, mais quand il n'y a pas d'autre solution, il faut que les femmes puissent prendre cette décision. Hillary Clinton est allée beaucoup plus franchement là-dessus, en disant « ça n'est pas au gouvernement de décider ». Et ça, c'est un argument qui est extrêmement fort et sensible aux États-Unis. Que l'État déborde de ses prérogatives, veuille régler la vie des gens, c'est toujours quelque chose de pénible à entendre quand on est américain. Et là, dire « ça n'est pas au gouvernement de décider », c'est quelque chose qui a porté vers toutes les générations de femmes. Mmh.
Hélène Canquin, vous voulez intervenir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nicole. Enfin, je pense que, au final, en cette fin de campagne, je pense qu'il y a probablement une adhésion plus grande.
Oui, ça fonctionne désormais. Mais ça fonctionne peut-être plus parce que précisément en réaction finalement à la posture.
Mais
de
aussi
Trump.
Parce que même le deuxième débat que j'ai trouvé extrêmement douloureux à regarder, parce qu'il y avait cette présence de Donald Trump derrière Hillary Clinton, une présence menaçante que j'ai trouvé vraiment très dérangeante. Je pense qu'elle s'en est bien sortie. Mais il y a aussi la question politique qui est que sur certains enjeux, Hillary Clinton, les jeunes électeurs ne sont pas très motivés par certaines positions, notamment en politique internationale de Hillary Clinton.
Toute dernière question, on arrive presque au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre ? Faisons une hypothèse, celle de Hillary Clinton qui remporte cette élection. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette arrivée de Clinton à la Maison-Blanche concernant la cause des femmes ? On avait dit, bien sûr, quand Obama est arrivé, on a dit, oh, ça y est, l'Amérique post-raciale, c'est maintenant, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, est-ce que concrètement, on peut vraiment attendre quelque chose de Hillary Clinton en la matière ? Hélène Canquin.
D'abord, il y a la Cour suprême, qui est extrêmement importante, qui est un enjeu vraiment majeur aux États-Unis, et Donald Trump l'a très bien dit justement sur la question de l'avortement. Donc probablement la prochaine présidente des États-Unis devra nommer déjà un juge à la Cour suprême qui n'est toujours pas nommé à cause du blocage des républicains, mais peut-être d'autres effectivement au regard de l'âge de ces juges. Donc c'est une question centrale pour beaucoup d'enjeux, notamment l'avortement, mais aussi beaucoup d'autres questions. Donc ça, c'est la
première
chose.
Mais elle se contentera de cette nomination à la Cour suprême. Il n'y aura pas d'action plus directe.
Je pense que c'est extrêmement important.
Oui, d'accord. Nicole
Bacharan. Son équipe dit qu'elle souhaite avoir un gouvernement qui soit plus ou moins à parité, hommes et femmes, parmi ses ministres. Elle met beaucoup en avant la question de l'égalité des salaires, qui n'est toujours pas réalisée aux États-Unis ni en France d'ailleurs, à travail égal, salaire égal. Mais vous faisiez la comparaison très juste avec l'arrivée de Barack Obama à la Maison Blanche. C'est vrai que l'Amérique post-raciale, elle existe en partie, puisqu'il y a une large majorité d'Américains qui ont élu Barack Obama deux fois, mais qu'il ne suffit
on voit le résultat, Charlotte,
d'un président noir ou d'un président femme pour que la question du racisme d'une société ou la question du sexisme d'une société soit résolue. Au fond, ça n'est pas du pouvoir du président ou de la présidente. Il peut donner des inflexions, il peut faire certains actes.
Oui, mais pour Obama, précisément, les Afro-Américains lui ont reproché de ne pas en avoir fait suffisamment.
Ils lui ont reproché de ne pas en avoir fait suffisamment et ils regrettent déjà son départ. Ils ne sont pas les seuls.
Il se passera la même chose avec
le racisme aux États-Unis, il a diminué, mais évidemment, comme dans tout pays, il n'a pas disparu. Et la question de la police, de la violence et des armes, ça va beaucoup plus loin que le pouvoir d'un président américain.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Hélène Canquin, Nicole Bacharan, je rappellerai Du sexe en Amérique, mais aussi First Ladies à la conquête de la Maison Blanche, deux de vos ouvrages. On mettra les références sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde.
She takes just like a woman, yes she does, and she makes love just like a woman, and she aches just like a woman, but she breaks like a little girl.
Ah, quelle voix absolument somptueuse, celle de Nina Simone, évidemment. Et c'est pas mal quand même, hein, quand c'est sur un texte de Bob Dylan. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicole Bacharan?
Je suis fan et de Bob Dylan et de Nina Simone. Je trouve ça absolument irrésistible.
Ah, on a bien choisi, alors. En plus, c'est pas complètement par hasard, parce que ce qui vient dans quelques instants est lié effectivement à Bob Dylan. Il est 11h52 minutes passées, l'heure de retrouver Brice Couturier et son monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on va reparler de Dylan, suite de cette polémique sur Dylan, prix Nobel de littérature, Brice.
Ben oui, le quotidien irlandais Irish Times consacre, tenez-vous bien, 18 pages à cette controverse, Libé battue. Toutes les grandes plumes de la littérature et de la critique irlandaise se prononcent pour ou contre la nobélisation du songwriter, et voilà ce que ça donne. « Je ne suis pas du tout choqué », lance le poète et professeur à Oxford, Bernard O'Donoghue. Dylan s'inscrit dans la lignée du chant lyrique, illustré avant lui aussi bien par Shakespeare que par Robert Burns, le fils préféré de l'Écosse. C'est une part essentielle de la poésie, c'est un grand poète qui est couronné. Liz Nugent, romancière dont on peut lire en français « Olivier ou la fabrique d'un manipulateur » déclare « La littérature nous vient sous bien des formes différentes. Cela ne m'aurait pas choqué que le prix revienne à Leonard Cohen ou à Joni Mitchell, qui le mérite également. » Plusieurs autres intervenants dans ce débat expriment ce même regret que le Nobel ne soit pas revenu à Leonard Cohen. Darren Anderson aussi aurait aimé, mais il admet que sans Dylan, il n'y aurait sans doute pas eu Cohen. Que l'on puisse trouver de la poésie dans bien des œuvres non littéraires, par exemple dans les films de Tarkovsky ou les peintures de Paul Klee ou encore les bandes dessinées de Will Eisner, est un fait admis depuis longtemps, dit-il. Et il s'étonne que l'on doive feindre de livrer sur ce thème une bataille déjà gagnée. L'essayiste Desmond Traynor s'indigne qu'on ait pu mettre sur le même plan la sélection de Donald Trump aux primaires républicaines et l'attribution du Nobel à Dylan en tant que signe du déclin de la civilisation américaine. Au contraire, dit-il, Dylan est au croisement de ce qu'il y a de plus puissant dans la culture américaine, musique, cinéma, littérature. Pour Blake Morrison, un écrivain britannique cette fois, c'est le Nobel le plus étrange depuis celui qu'ils ont attribué à Winston Churchill en 1953. À ses yeux, ou plutôt à ses oreilles, les textes de Dylan ne valent que parce qu'ils sont chantés par leur auteur. Quant à ses paroles, dit-il, si on les divorce de sa musique, ils comportent des défauts qui les feraient refuser dans les ateliers de poésie. Clichés, archaïsme, inversion, lubie. Christopher Ricks, spécialiste de T.S. Eliot et co-auteur d'une édition des lyrics de Bob Dylan, lui répond « Chercher à faire la part des textes écrits, de la musique et de la façon de chanter de Dylan n'a strictement aucun sens. Chaque grand artiste a la liberté de créer la formule à partir de laquelle son art pourra être jugé. Et Dylan fait partie de cette catégorie des grands artistes. Bien sûr, c'est un poète parce qu'il crée des climats avec des mots et je n'aurais pas écrit les livres que je lui ai consacrés si je n'avais pas cru qu'il est l'équivalent de nos grands poètes tels que Milton et Keats, Tennyson et T.S. Eliot. » Catriona O'Reilly, poétesse elle-même, écrit « Bob Dylan a eu la capacité de sonner à 20 ans comme un vieil Appalachien grisonnant et fatigué du monde qui en aurait eu 80. » Et pour elle, Bob Dylan, comme Leonard Cohen et Joni Mitchell encore, sont les gardiens de la flamme des bardes. Eh ben, on pourrait continuer comme ça, Florian, à l'infini. Mes partenaires de World Crunch ont recensé 19 grands quotidiens à travers le monde qui ont fait figurer la nouvelle en première page. Et ça va de la Repubblica italienne au Frankfurter Allgemeine. Allez voir sur leur site. Mais j'ai quelque chose à vous faire entendre, ou plutôt, vous avez quelque chose.
Eh ben, on y va.
Vengeance, cursing the dead that cannot see him back. You know that he has no intentions of looking your way unless it's to say.
Vous nous faites l'explication de texte, Brice Couturier ?
Ah non, c'est vous, parce que c'est un disque que vous sortez de vos archives secrètes.
Absolument, que je cherche, que oui, absolument, vous avez raison. Mais en revanche, ce titre, parce que ce qui est intéressant sur ce vinyle-là, qui est un vinyle qui n'a jamais été publié, que je tiens, je vais tout vous raconter, que je tiens de mon parrain, c'est un vinyle qui n'a jamais été publié. Et dessus, il y a quelques morceaux qui ont été enregistrés dans une chambre d'hôtel à New York. Celui-ci n'en fait pas partie. Mais effectivement, il y a à l'époque des chansons qu'on n'avait jamais entendues de Dylan. Depuis, elles sont, c'est vrai, sorties sur Internet, heureusement, et on s'en réjouit. On en entend encore un petit peu quand même.
Avec plaisir.
Nicole Bacharan, évidemment, vous adorez Dylan, on l'a compris. C'est une bonne idée, hein, ce prix Nobel de littérature.
Écoutez-moi, ça m'a fait un immense plaisir. Alors, je sais que le débat sur ce qui est et ce qui n'est pas de la littérature est sans fin. Pour moi, c'est de la littérature, mais mon opinion vaut ce qu'elle vaut. Mais cette voix, ces textes, ce son, c'est tellement ce que j'aime en Amérique et ça me rappelle. Ramène tellement en Amérique quand je n'y suis pas dans ce que ça a de meilleur que voilà, ça m'a fait, moi ça m'a fait plaisir, mais je crois pas que c'était le but de l'Académie Nobel non plus.
Si, c'est important quand même. On sait pas pour qui il va voter, Dylan, parce qu'il n'a pas du tout commenté le Nobel. Si, on sait. Il y a peu de doute.
Il n'ouvrira jamais la bouche. Enfin, il est totalement autiste, totalement fermé sur son monde. Barack Obama lui a décerné la médaille de la liberté qui est la plus haute distinction aux États-Unis. Je ne crois pas qu'il se soit exprimé davantage.
Et la liberté, c'est de se taire.
Aussi.
Merci beaucoup. Ben, on va faire ça justement. On va se taire, on va laisser place à Olivia Gesbert et la grande table.